Votre invité, Sonia Mabrouk, c'est Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF.
Bonjour Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Bonjour.
On est en train d'avancer sur la bataille de la réduction du chômage. C'est la phrase d'Emmanuel Macron hier lors d'une visite d'un chantier d'insertion. Est-ce que c'est le cas ?
On peut regarder le verre à moitié plein, le rétroviseur, effectivement, depuis 17 trimestres. Depuis que François Hollande a décidé du pacte de responsabilité de baisser les charges sur les entreprises, on crée des emplois, on en crée presque 1 million, pour faire allusion
au
PINS et surtout à la prédiction que le MEDEF avait fait il y a maintenant 5 ans. Maintenant, moi je m'inquiète des chiffres qu'on voit, les chiffres plus récents, notamment l'intérim, qui est souvent un signe avant-coureur du marché de l'emploi. Depuis le mois de juillet, l'intérim c'est -5-6% toutes les semaines. On a beaucoup de secteurs qui commencent à avoir des difficultés. Et puis la France n'est pas une île. L'Allemagne va mal, l'Angleterre, j'en parle pas, et tout autour de nous, les nuages s'accumulent. C'est pour ça que nous, on est inquiets pour l'année prochaine, on est inquiets pour la croissance qui est annoncée à 1,4 dans le budget. Ce chiffre me paraît très difficile à tenir. Et on dit au gouvernement, si vous continuez à revoir ce qui a été fait, c'est-à-dire la politique de l'offre qui consiste à aider les entreprises en baissant les charges, on risque de pas gagner cette bataille de l'emploi, alors qu'effectivement depuis 17 trimestres ça se passe bien.
Mais Geoffroy Roux-de-Bézieux, votre discours ce matin est très différent de la tonalité de la petite musique de l'exécutif. Le président, ses ministres affirment que ça va mieux, que la croissance n'est pas si mauvaise, que les voyants virent au vert, que quand on se compare, on se console par rapport aux autres pays.
Écoutez, on se compare, on se console, ça c'est une chose, mais si vous voulez, moi la différence c'est que je suis pas homme politique, donc je vais pas me faire réélire. Je vois ce que me disent mes adhérents. On est rentré en septembre, on a réuni tous les présidents de toutes les branches, toutes les fédérations, on a fait un tour de table, donc c'est du micro, c'est pas des grands indicateurs macroéconomiques, c'est ce que disent les gens. Et notamment, je cite le cas de l'intérim, parce que historiquement, à chaque fois qu'il y a une baisse de l'intérim, quand elle dure plusieurs mois de suite, elle indique un retournement de marché. Alors là, ça fait 2 mois, c'est le début de l'été, donc je veux pas être alarmiste, mais je dis quand même, attention, ne tombons pas dans une fausse euphorie, la France n'est pas une île.
Ne tombons pas dans la fausse euphorie, donc le président du MEDEF, vous êtes quand même un poste d'observation important, nous dit qu'il y a des signaux d'alerte. Il y a cette réalité, ces signaux que vous décrivez, et puis il y a les mots, Geoffroy Roux-de-Bézieux, utilisés par le président. Voici ce qu'il dit. En matière de chômage, il n'y a pas de fatalité, dit-il. Ou encore, la pauvreté n'est pas un statut. C'est une inflexion, y compris dans le langage d'un président plus social.
Moi, je peux être d'accord avec ça. Oui, en matière de chômage, il n'y a pas de fatalité. Le million d'emplois dont on a parlé vient de le prouver. Mais il faut une politique volontaire, et c'est pareil pour la pauvreté. Pauvreté, il y a deux manières de la définir. Vous savez qu'il y a un calcul qui est le rapport par rapport au salaire moyen. Donc à ce moment-là, il y aura toujours des gens qui en ont moins que d'autres. Mais ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a une prospérité qui s'accroît dans le pays ? Et c'est par l'emploi qu'on peut faire rentrer les gens dans la prospérité.
Mais on peut se demander si le Macron nouveau est-il arrivé, pardonnez-moi pour la formule, mais sur la méthode priorité à la concertation, sur les mots attention à ne pas froisser, un président plus proche, en tous les cas dans le langage des plus défavorisés, ce sont des paroles pour vous ou un changement réel que vous avez constaté lors de vos échanges peut-être ?
Écoutez, moi j'ai pas à juger si le Macron nouveau est arrivé.
Ah quand même, ça va vous concerner dans la politique appliquée.
Ce qui nous intéresse, nous, si vous voulez, c'est que ce qui a marché depuis 4 ans continue. Et que la démonstration, le chiffre du dernier trimestre le confirme, 17 trimestres de suite de création d'emplois, il faut qu'on continue. Pour qu'on continue, il faut qu'on continue la même politique budgétaire, la même politique de baisse d'impôts.
Là, vous dites attention.
Oui, je dis attention, parce qu'on s'inquiète. Le PLF, donc le projet de loi de finances 2020, qui va être voté dans les semaines qui viennent, contient un certain nombre de mesures. Alors on nous dit, oui, mais c'est quelques centaines de millions d'euros. Mais c'est une mauvaise inflexion et c'est un mauvais signal.
Consultation large, puisque l'on parlait justement de concertation sur la réforme des retraites. Quels sont les écueils, selon vous, Geoffroy Roux-de-Bézieux ? Que craignez-vous dans ce processus de consultation, même de débat permanent qui est en train de s'ouvrir ?
Moi, j'ai pas de problème avec le débat, j'ai pas de problème avec la concertation. Et évidemment, je trouve légitime de consulter au-delà des syndicats,
du patronat. Mais il y a un mais quand on commence à dire cela.
Non, mais j'ai envie de dire, pourquoi on fait cette réforme ? Parce que la réforme des retraites, chaque gouvernement en fait une. Celle-là, on nous dit c'est la dernière des réformes, c'est la mère de toutes les réformes, etc. Et nous, on soutient le principe de la réforme par points. Pourquoi ? Parce qu'elle permet une meilleure équité. Équité entre les générations, équité entre public et privé, équité pour les femmes qui ont eu des retraites généralement plus faibles. Mais l'équité, ça a un coût. Et quand j'entends cette même antenne, je crois hier, Laurent Berger dire « Ah mais il n'y a pas de problème budgétaire, il n'y a pas de problème de financement », je m'inquiète. Parce que oui, il y a un sujet de financement. L'équité, la justice, ça a un prix. Et si on veut de l'équité, il faut que d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la méthode retenue, âge pivot ou bien trimestre supplémentaire, on dise la vérité aux Français. La vérité, c'est que l'espérance de vie, elle augmente, que le ratio entre les gens qui travaillent et les gens qui sont à la retraite, y baisse, et qu'il faudra travailler plus longtemps.
Vous continuez à marteler ce matin que sans mesure d'âge, on ne réglera pas le problème de fonds des retraites, qu'il faut des économies.
Je prends le problème dans l'autre sens. Est-ce qu'on veut faire cette retraite pour plus de justice, plus d'équité? Ou c'est simplement un jeu de
bonneteau? C'est le même discours, pardonnez-moi, que Laurent Berger hier. Il dit,
oui, mais
si on
pas
fait
la
une bonne
conclusion, si je peux me permettre.
Mais c'est ça le problème. Comment ça se fait, Geoffroy Roudbizier?
Parce que je serais ravi d'en discuter avec Laurence, qui nous arrive très régulièrement.
On peut l'organiser
avec
ici même.
On peut même l'organiser sur Europe 1. Mais quand j'entends 10 milliards d'euros de déficit dans le régime d'équilibre du budget, des retraites, c'est l'épaisseur du trait. Moi, j'avoue que 10 milliards d'euros, l'épaisseur du trait, au MEDEF, on compte 10 milliards d'euros, ça compte. Et la réalité démographique de ce pays, tout le monde la connaît. On sait qu'on fait 1,8 enfants par femme, on sait que l'espérance de vie augmente, donc il faut travailler plus longtemps.
Dans une tribune au quotidien Le Monde, il y a quelques jours, quelques temps, Jean Pisani-Ferry, c'est le concepteur du programme économique d'Emmanuel Macron, dit ceci, le problème du financement des retraites est, pour l'essentiel, réglé.
Mais je suis désolé, je suis pas d'accord avec lui, mais il n'y a pas que moi. Le Conseil d'orientation des retraites, qui est un organisme neutre, a publié en juin 2018, en juin 2019, et je pense qu'il continuera à le faire, une trajectoire qui montre que oui, il y a un problème. Et je vais dire, ça va plus loin. Il faut bien lire ce rapport, hein, qui est très intéressant, un peu aride, mais très intéressant. Il dit que non seulement il y a un problème de financement, mais il prend des hypothèses de gains de productivité et de croissance qui sont supérieures à ce qu'on a fait jusque-là. Donc il est plutôt optimiste dans ses hypothèses.
N'êtes-vous pas déjà perdant à l'avance? Vous savez bien, compte tenu de notre histoire politique et sociale, qu'on ne fait pas une réforme des retraites en France contre la CFDT, sans la CFDT.
Ça, pardon, Sonia Mabouk, c'est un peu ancien monde, si je puis me permettre.
Mais vous croyez qu'on est vraiment dans le nouveau monde?
J'ai cru lire quelque part qu'on était dans le nouveau monde. Non, plus sérieusement, je ne suis pas perdant. Vous savez, les entreprises ne seront pas perdantes, c'est le pays qui va être perdant. Parce que s'il y a, comme je le crois, comme le corps le dit, un problème de financement, ça se terminera de deux manières. Ou on baissera les pensions, et à ce moment-là, ça sera un problème de pouvoir d'achat arrêté, où on augmentera les cotisations et ça sera un problème de pouvoir d'achat des salariés et de compétitivité des entreprises, donc d'emploi. Donc je ne crois pas que ce soit moi ou le MEDEF qui soit perdant, c'est le pays.
93, 2003, 2007, 2010, 2013 et maintenant 2019, voire 2020, c'est pas la der des der cette réforme des retraites. À chaque fois, on nous dit la même chose.
Alors, pourquoi ça pourrait être la der des der? Effectivement, je comprends, c'est d'ailleurs le doute qui envahit tout le monde, parce qu'on change de système. Et c'est pour ça que nous, on est prêts à accompagner cette réforme de système à point, parce que le point, pour quel est l'intérêt d'un système à point? Au fond, la question peut se poser comme ça. Ben, c'est un système qui est universel, tous les régimes fonctionnent pareil, qui permet de passer d'un métier à l'autre, hein, de la fonction publique au privé, et en plus, on peut faire varier la valeur du point en fonction justement de l'équilibre du régime. Donc ça pourrait être la der des der si on la met à l'équilibre.
Geoffroy Roudbizier, pour conclure, est-ce que vous vous souvenez de la durée de votre congé de paternité?
Ah bah moi c'était simple, c'était zéro jour. Donc
non. Rien du tout.
Rien du tout. Mais bon. J'étais créateur d'entreprise et un créateur d'entreprise entrepreneur, il n'a pas tout à
on
fait le temps.
On en a parlé tout à l'heure avec Mathieu et notre auditeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision quand même du groupe Kering, un congé de paternité de 14 semaines?
Si vous voulez, c'est très bien pour les salariés, c'est très bien pour Kering. Et effectivement, Kering, c'est un groupe de luxe qui gagne très bien sa vie, il a besoin d'attirer des talents, et c'est, je trouve ça très légitime. Après, j'ai entendu votre auditeur, patron de PME, qui dit « moi, je peux pas le faire ». Oui, mais il a autre chose à offrir à ses salariés, parce qu'on sait très bien que dans les grands groupes, les gens trouvent qu'ils manquent de sens de travail, etc. Donc, chacun attire les talents avec ses armes.
Zéro jour de congé paternité?
J'ai eu quatre enfants.
Vous n'êtes pas un exemple.
Et je ne suis pas un exemple, mais je montais ma boîte, et si vous voulez, je n'avais pas trop le choix.
Merci Geoffroy Roudbizier, merci d'avoir été notre invité.